Salut tout le monde, ça faisait longtemps que j'avais envie de parler du Conjuring Universe, ça faisait quelques années, je l'ai pas fait pour quelle que soit la raison. Mais Conjuring 4 vient de sortir, qui est présenté comme le tout dernier volet de la saga. Bon, après, il a eu énormément de succès, donc la loi du marché étant ce qu'elle est, ça m'étonnerait beaucoup que cet univers soit enterré. Mais bon, officiellement, c'est le dernier volet, donc c'est maintenant ou jamais pour en parler. Et le Conjuring Universe, c'est un univers cinématographique qui est assez bizarre, parce qu'à la base, c'est deux films d'horreur grand public solides, que j'aime bien, qui n'ont pas forcément bien vieilli sous tous les aspects. C'est Conjuring 1 et 2, donc, qui sont réalisés par James Wan, mais qui contiennent énormément de bonnes choses. Le 1 se tient bien sur toute la longueur, tandis que le 2 a plus de moments mémorables et iconiques, mais il a énormément de personnages, presque trop, il se disperse beaucoup. C'est intéressant d'ailleurs de voir que le film a été remanié, Conjuring 2, en post-prod, beaucoup. Parce que James Wan, au montage, s'est rendu compte qu'il y a pas mal de trucs qui fonctionnaient pas. Et à la base, l'antagoniste n'était pas censé être la nonne, c'était une sorte de démon plus classique. Et ils ont arrêté le montage, ils se sont dit, ok, avec le studio, il faut qu'on retourne des trucs, il faut qu'on remanie le film pour qu'il fonctionne. Et c'est là qu'ils sont partis retourner une partie du film avec l'antagoniste, qui est la nonne. Mais bref, t'as Conjuring 1 et 2, et ensuite t'as une poignée de films qui sont soit des spin-offs ou des suites, qui sont au mieux pas trop mal, et au pire, enfin, vraiment mauvais, malgré quelques bonnes idées qui surnagent ça et là.
Hi, I'm writer, director, producer James Wan.
Au-delà des deux premiers Conjuring, James Wan a arrêté de réaliser des films de cet univers et ne fait que produire. Cet univers, au box-office, c'est une poule aux œufs d'or. Et c'est du tout bénef pour James Wan, parce qu'à la fois, il est à la tête d'un univers qui rapporte énormément au box-office, donc il lui donne une crédibilité auprès de l'industrie. Et en tant que réalisateur, sur le plan plus artistique, il reste le mec qui a la meilleure réputation parmi tous les gens qui se sont essayés à la réalisation dans cet univers-là. Parce que les deux premiers Conjuring restent les deux meilleurs, quoi. Et chaque fois qu'il y a un film du Conjuring Universe sort, il y a une partie du public qui se dit « Mais pourquoi c'est pas réalisé par James Wan ?»« James Wan, reviens ! Réalise quelque chose, s'il te plaît !» Conjuring 4, donc annoncé comme le dernier volet de la saga, est sorti. Réalisé par Michael Chaves, qui avait déjà réalisé le troisième, qui était... c'est pas horrible, mais bof, y a rien de spécialement mémorable dedans. Et donc, qu'est-ce que ça vaut? Et bah avant toute chose, pour bien se préparer aux incantations en araméen, cette vidéo est en partenariat avec Rosetta Stone. C'est un nouveau partenaire sur la chaîne et pour le coup, c'est vraiment un de mes préférés. Rosetta Stone, c'est une application d'apprentissage de langue que j'ai découverte il y a peu, et j'ai vraiment eu une très très bonne surprise. C'est trop cool. C'est une appli super ludique, une appli immersive et vraiment agréable à utiliser. On choisit là où les langues qu'on veut pratiquer, quel que soit notre niveau de base. Et Rosetta Stone te file un programme sur mesure avec détecteur de prononciation, avec des quiz marrants, avec un compagnon audio qui travaille ton écoute, avec de la lecture qui est proposée, qui est adaptée à tes besoins, à tes envies et à ton temps.
Vocabulaire.
Bref, l'appli suit votre niveau de manière très précise et vous permet de progresser de façon qui est avant tout joueuse. Là, par exemple, moi, j'ai choisi un apprentissage en suédois.
Det heter sked på svenska.
Det heter sked på svenska. Ah oui, oui, oui. Sked.
Il y a longtemps, très longtemps, dans une galaxie lointaine, j'avais vécu en Suède et j'avais appris un petit peu à parler suédois, mais bien entendu, au fil des ans, à ne pas pratiquer, et j'ai perdu de ouf. Donc en y consacrant simplement un petit quart d'heure par jour sur Rosetta Stone, soudainement...
Hästar och kor äter gräs.
J'adore cette langue. Bah je peux regarder à nouveau Morse ou du Roy Anderson en version originale sans rester rivé sur les sous-titres. Bref, Rosetta Stone, c'est le parfait complément aux méthodes d'apprentissage que vous connaissez déjà et c'est une super habitude à prendre. Et avec le lien dans la description, vous bénéficiez d'une réduction de 60% sur l'abonnement à vie pour 25 langues. Ce qui est très très bien. Donc merci à Rosetta Stone d'être en partenariat avec cet épisode et quant à moi, je vous souhaite une très bonne vidéo. A des bras. Donc, Conjuring 4, le récit se passe en 86. On suit toujours le couple Ed et Lorraine Warren, enquêteurs du paranormal, qui sont vieillissants mais toujours aussi amoureux et mignons. On suit aussi leur fille, qui a du mal à gérer et à accepter le don qu'elle a hérité de sa mère, en fait, d'être sensible aux occurrences paranormales, et qui va devoir accepter ce don. Les Warren vont, comme d'habitude, aider une famille qui est en proie à une entité démonique, qui est tourmentée par cette entité. Et donc sur le récit, on est sur une mécanique extrêmement proche des deux premiers volets. Particulièrement du premier, vraiment c'est presque un décalque. Mais là en plus, ça parle de transmission, de relève, de nouvelle génération, tout ça, tout ça. Et je suis le premier surpris Mais Conjuring 4, bah c'est bien.
Making a movie, guys. Making a movie.
Michael Chaves, le réalisateur, il a une courbe de progression qui est assez folle. En fait, dire que le mec est inégal, c'est un euphémisme. Son premier film, c'était The Curse of La Llorona, la malédiction de la Dame Blanche en français, qui fait pas exactement partie du Conjuringverse, mais qui était déjà produit par James Wan. Dire que le film n'est pas inspiré, c'est trop poli. Enfin, on sent pas que Chaves a une patte d'auteur ou une vision particulière de son récit ou des mécaniques horrifiques à amener. C'était vraiment un film d'horreur grand public interchangeable à tous les niveaux. Deuxième film, il est propulsé sur Conjuring 3. Il n'est pas vraiment mémorable ce film, il n'est pas exécrable, il n'est pas ultra mauvais, mais encore une fois, il n'imprime pas une vision particulière. Troisième film, La Nonne 2, pareil. Et d'un seul coup, Conjuring 4. Et là, revirement complet. Le mec a fait des pompes avant de réaliser ce film. Il a finalement, je pense, vraiment à avoir toujours été sous la houlette de James Wan. Bah, il a fini par apprendre vraiment ce qui fonctionnait dans ce que réalise James Wan. Et là, quelle bonne surprise, ce film. Comme vous le savez, l'horreur grand public, ça repose principalement sur les jumpscares. Parce qu'il y a cette volonté de capter l'attention d'une énorme partie du public qui vient pas voir ces films parce qu'elle est particulièrement fan de films d'horreur, mais plus pour s'encanailler et avoir un tour de grand 8 qui ne prête pas à conséquences. Ce qui fait que beaucoup de films d'horreur grand public ont une peur bleue du silence. Le seul silence qui est toléré, c'est les 3 secondes avant un jumpscare, justement ce silence qui annonce le jumpscare, juste pour que les gens puissent remonter leur col roulé sous leur tête et se préparer. Mais ça, c'est un truc qui est vraiment spécifique à l'horreur. Parce que vraiment, le public de l'horreur, c'est soit des gens qui sont très très fans du genre, qui connaissent les codes et qui viennent justement pour réexplorer ces codes et pour découvrir des choses qui vont un petit peu plus loin, soit des gens, encore une fois, qui sont pas fans et qui ne veulent, au contraire, eux, pas de choses qui vont trop leur trotter en tête après le visionnage. Je crois que l'horreur, dans le cinéma de genre, c'est vraiment le genre qui pousse le plus loin ce côté dual du public. Et c'est ça qui fait que le fait qu'un film d'horreur grand public soit réussi ou pas, bah fondamentalement, ça va pas l'empêcher de cartonner au box-office. S'il s'est tapé juste en termes de marketing, en termes de visuel un petit peu vignette YouTube-friendly, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que le Conjuringverse, c'est systématiquement une poule aux œufs d'or. Ça fonctionne de ouf au box-office, que les films soient bons ou mauvais. Mais le truc avec Conjuring 4, c'est un film qui pourrait presque fonctionner sans l'horreur, tellement c'est une histoire qui est centrée sur les personnages et ce qu'ils traversent en dehors en fait des occurrences surnaturelles quoi. Et je crois que c'est ça qui a libéré Michael Chaves du dictat du jumpscare à la con. Et ça fait du bien. C'est un film qui prend son temps, et ça on le voit déjà dans l'intro, parce que sur ce genre de film, les 10 premières minutes, tu sais, voire les 5, tu sais exactement à quel type de film tu vas avoir affaire. Cette intro de Conjuring 4, donc, qui retourne en 1964 et qui explore la première enquête des Warren où ils ont rencontré pour la première fois ce démon qu'ils vont retrouver plus tard dans le film, en 1986, bah ça résiste à la tentation du jumpscare et de la surenchère. Et putain, j'étais ravi dans cette intro parce que je me dis, waouh, ça y est, le film se contient et il a des parties pris. We were scared. Dans cette intro, quand Lorraine touche le miroir se fend et d'un seul coup elle est assaillie par une vision. Il y a un côté soudain, il y a un côté vraiment surprenant de cette vision, mais c'est pas un jumpscare à proprement parler, c'est juste le récit qui s'emballe d'un seul coup. Tout le reste de l'intro, alors que Lorraine soudainement se rend compte qu'elle va accoucher, Ed l'emmène à l'hôpital et ils se rendent compte qu'ils ont été suivis par l'entité, j'attendais le jumpscare, il n'est jamais venu. Cette intro, c'est la carte d'identité du film. Et le premier vrai jumpscare, il arrive à une demi-heure. Pour un film d'horreur grand public, c'est une éternité. Étonnamment, c'est le premier volet des Conjuring, quand on y pense, qui est vraiment centré sur les Warren. Parce que jusque-là, notamment dans le 1 et le 2, les vrais protagonistes, c'était les familles qui étaient malmenées par les entités démoniques. Et les Warren, c'était des rôles très importants, mais presque des seconds rôles. Et là, vraiment, ce qui intéresse, c'est les Warren, et notamment cette transmission à travers leurs filles, et comment ils gèrent le fait de vieillir et de devoir transmettre aussi leur héritage à ce niveau-là. Une alchimie entre les acteurs notamment, ça s'invente pas, et quand tu vois Patrick Wilson et Vera Farmiga, leur alchimie, enfin, crève l'écran. Ça fait chaud au cœur de les voir en interview, parce que tu sens qu'ils sont vraiment, vraiment très très amis. Dans la vraie vie, il y a un truc très mignon chez eux qui déteint sur toute l'aura du film.
More core strength.
Et c'est une force du film, parce que tu ressens une empathie assez démentielle pour eux, mais ça devient aussi une faiblesse, notamment dans la deuxième partie, parce qu'après une première partie où t'as appris à connaître la famille qui vont aider, le film est tellement centré sur les Warren que cette famille, que les Warren aident, ça devient presque des figurants. Tu passes la première partie du film vraiment à les connaître et la deuxième partie à les oublier. À la fin, tu te dis « Ah putain, oui, ils étaient là, en fait !» Et c'est pareil pour le démon, qui est un démon ultra générique et interchangeable, qui a une tête, encore une fois, vignette YouTube friendly. Tu sais rien de ce démon, enfin, à part qu'ils l'ont déjà rencontré en 64 et que... d'une certaine manière, il est lié à la fille parce qu'il était là pendant sa naissance, mais le démon et la famille qui tourmente, finalement, ça devient presque des accessoires. Le film a les défauts de ses qualités, et c'est le seul truc que je lui reproche, en fait.
Everything you see in here is either haunted, cursed, or been used in some sort of ritualistic practice.
I just find the creepy moments like that much more interesting for me as a filmmaker. I find it more challenging to do because boo scares or jump scares, if you do them right, they can be very effective. But to create creepy sequences and to do them right is a lot harder. And so I myself personally prefer the small creepy moments.
Wan a toujours eu vraiment un talent particulier dans sa manière de bosser avec ses équipes pour ne pas juste, par exemple, créer des designs de monstres qui sont uniquement creepy, de façon assez générique ou assez interchangeable, mais il arrive toujours à taper dans quelque chose qui relève presque de l'inconscient collectif, quelque chose de profond, de cauchemardesque. Et il a toujours cette sensibilité pour ce qui va taper dans cette zone-là. Je pense que c'est un mec qui est très en phase avec ses cauchemars. Et là, depuis le départ, je parle de jumpscare comme quelque chose qui apparemment serait négatif, mais un jumpscare, c'est pas forcément une mauvaise chose. Un jumpscare, ça peut être très très réussi. Mais il faut le contexte, et il faut le mériter. Le truc avec le genre de l'horreur, c'est que c'est un des genres à la musicalité, au rapport au rythme le plus précis, et parfois donc aussi prévisible. Et c'est très particulier parce que, spécialement sur ce genre en fait, on vient y chercher la saveur de ces codes, de ces formules, on veut être en terrain connu, mais en même temps, on veut être surpris. On veut la même chose, mais en différent. C'est un truc très ambigu et c'est un équilibre très délicat à manier. Et un jumpscare, il n'y a pas un milliard de manières d'en faire un. Tac, tu regardes là, surprise. Ou alors, tac, fausse alerte, en fait c'était là. Tu peux juste reporter constamment le moment du jumpscare au bout d'un moment, même si tu fais 8 fausses alertes. La mécanique du jumpscare, ça reste la même. Donc ce qu'il faut, en fait, c'est varier la musicalité. Et ça, James Wan le fait très très bien. Varier la musicalité au sens où, par exemple, James Wan ne termine pas systématiquement ses scènes de tension par un jumpscare. T'as beau connaître en fait la mécanique de ce qu'est un jumpscare en soi, si tu ne sais pas si un jumpscare va arriver ou non dans une scène, bah soudainement ça aère le rythme, ça aère les attentes. Il y a un jumpscare dans Conjuring 3, je trouve qu'il est assez représentatif, en fait, de la manière dont beaucoup de films d'horreur grand public gèrent les jumpscares. Là, par exemple, c'est le mec qui est possédé dans le film. Il est chez lui, il commence à se passer des trucs. Donc voilà, la tension monte, il regarde à travers un trou dans le mur. Voilà. Là, on s'attend à ce qu'il y ait un œil qui surgisse de l'autre côté du trou, forcément. Y a rien. Et hop, derrière, bouh! Regardez! Voilà, jumpscare est pas forcément très réussi en soi. Et là, la scène se termine. Bouh! Conjuring 3 et tellement d'autres films de ce type utilisent ces jumpscares vides et systématiques vraiment comme ponctuation à intervalles réguliers des scènes. Comme d'autres films dans d'autres genres utiliseraient des scènes d'action à intervalles réguliers pour maintenir l'attention du spectateur, parce que c'est apparemment ceux qui sont venus chercher dans ce film-là. Et ce que montre ce type de jumpscare, je trouve, c'est qu'il y a deux ingrédients pour qu'un jumpscare soit réussi. C'est déjà qu'il soit bien entendu imprévisible. Et le deuxième truc, c'est que, en fait, il doit être intégré à la narration. Sinon, il est totalement gratuit, cheap, et tu te sens con d'avoir sursauté. James Wan, par exemple, dans ses films, il y a beaucoup de jumpscares qui sont utilisés comme des transitions vers autre chose. Par exemple, dans Conjuring 2, quand la nonne se jette sur Lauren Warren, c'est pas « bouh » et ensuite, on passe à autre chose. Elle se jette sur Lauren pour la projeter dans une vision. Par contre, le meilleur jumpscare du monde, et le meilleur contre-exemple, c'est dans The Haunting of Hill House, qui contient vraiment le meilleur, qualitativement, jumpscare qui soit. Je vais pas trop en parler, parce que si vous n'avez pas vu cette série, je vous envie de pouvoir la découvrir, et je vous incite vraiment, vraiment à la voir. Mais voilà, pour celles et ceux qui ont vu, scène de la voiture, forcément. Et là, on a à la fois un jumpscare qui est totalement surprenant, parce que notre attention était focalisée sur une discussion vraiment émotionnelle et importante entre deux personnages, et le jumpscare se produit pour une raison intégrée à cette discussion. Et tout ça, pour Conjuring 4, Michael Chaves, il l'a super bien mis en application. La musicalité horrifique du film, elle est super variée. Fondamentalement, il y a assez peu de jumpscares finalement. Michael Chaves, il met vraiment l'accent, comme Wan a fini par le lui enseigner, sur les moments creepy. Par exemple, dans la première partie, la scène de restaurant où les Warren sont tous les trois et t'as une sorte de main cadavérique sur l'épaule de la fille qui part derrière. La mère voit cette main qui se retire, elle est en mode « bon putain ». Parce qu'elle sait fondamentalement ce que ça signifie pour la fille, sur le fait qu'elle doit gérer ce don qui est une malédiction. Et elle a vraiment très très peur pour sa fille, fondamentalement, pas juste dans le contexte de cette scène. Il y a plein d'autres scènes comme ça qui fonctionnent très bien, dans la famille qui est hantée, la mère qui descend à la cave, la sempiternelle scène de cave, et elle voit le poster dans le noir qui représente imperceptiblement quelque chose qui n'est pas censé être là. Du coup, elle allume la lumière et forcément, c'est le poster normal. Ou quand elle est au téléphone et que le cordon du téléphone, elle pense que c'est ses enfants qui le tirent, mais en fait, il est tiré dans un placard où il est censé ne rien y avoir. Voilà, tellement de films pourraient traiter ça sous l'angle du ponctuation par le jumpscare. Ah, là non, ça choisit de te laisser plus avec une sorte de frisson d'inconfort et de « oh mon dieu ». Il y a un truc beaucoup plus cauchemardesque, je trouve, et beaucoup plus intéressant dans cette manière de traiter ces moments-là. Donc voilà, là je parle finalement plus de la mécanique horrifique que montre le film que du film lui-même. Mais quand t'as affaire à ce point à une formule surconnus, à des codes vraiment qu'on connaît par cœur, mais qui sont traités avec un artisanat solide, bon et sincère, t'as juste envie d'apprécier le film sans le décortiquer. Il n'y a pas fondamentalement grand-chose à en dire, à part constater pourquoi ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Le prochain épisode qui arrivera très très vite sera consacré à Alien Earth qui vient de se terminer. On y parlera notamment du problème du lore aujourd'hui. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à Rosetta Stone d'en être le partenaire, et bah, je vous dis à très très bientôt.